Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, le bien-être à l'école. La notion de bien-être est devenue ces dernières années centrale dans le débat public. On la retrouve mobilisée dans les orientations politiques, comme dans toute une série de recherches en éducation. Cette profusion peut sembler de bon aloi au moment où l'école, comme la société, sont traversées par des doutes et de multiples crises, pour ne pas parler de remise en cause. Car, on peut se le dire, les élèves français, globalement, ne vont pas très bien. Les enquêtes internationales, en particulier PISA, montrent régulièrement à quel point ils déclarent un niveau de bien-être à l'école inférieur à ceux des autres élèves de l'OCDE. On pourrait aussi se rassurer en se disant que si aujourd'hui on mobilise la notion de bien-être pour redéfinir le contrat éducatif, comme celle de l'empathie ou de la bienveillance d'ailleurs, c'est qu'on prend la question au sérieux et que vont émerger de nouvelles pistes pour améliorer la situation. Mais quelle voie prendre ? Faut-il centrer l'approche sur les seuls individus et leur bien-être ? Ou bien faut-il revoir l'organisation scolaire et chercher une amélioration des conditions de vie au travail des élèves comme des enseignants ? Car il est difficile à comprendre et à admettre que cette injonction au bien-être, qui fleurit un peu partout aujourd'hui, puisse être la réponse unique à la crise profonde que l'institution scolaire traverse depuis plusieurs années, comme je le disais tout à l'heure. D'autant plus, et nous y reviendrons avec nos deux invités, que cette notion de bien-être peine à être définie de façon simple et rigoureuse. On pourrait dire très simplement que le bien-être se définit d'abord par l'absence de problème. Mais de quel problème parle-t-on ? Les médecins regarderont les facteurs de santé, les économistes, les conditions de vie, les psychologues, le sentiment d'échec ou d'estime de soi. Ou bien est-ce de tout ça à la fois ? Au-delà de ces critères objectifs, ne faut-il pas aussi prendre en compte des critères plus subjectifs, permettant d'appréhender un bien-être qu'on dirait ressenti, tout aussi significatif ? Enfin, ne faut-il pas regarder les choses sous un angle différent et prêter une attention particulière au mal-être et à celles et ceux qui finalement ne vont pas bien ? Car enfin, en donnant l'impression de taire ce qui va mal, ce que le bien-être pourrait laisser entendre, et faire repousser les difficultés sur les seuls individus, rendons-nous service aux acteurs et aux actrices de l'école. Voilà autant de questions que nous souhaitons aborder avec nos deux invités, et à commencer par Claude Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous travaillez sur l'articulation de la sociologie de la famille et les politiques sociales. Et on pourrait retenir par exemple votre rapport de 2017 sur accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins. Et donc vous avez coordonné, c'est le point de départ de cette émission avec Kevin Dieter, l'ouvrage publié en anglais et bientôt en français, donc, chez Wiley. Et en anglais, le titre est « Wellbeing at School, a Social Problem ».
Et en français, ce sera « Le bien-être des enfants à l'école, un problème social ».
Un problème social. Et donc on a le plaisir de recevoir aussi Guylain Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'enfance, vous êtes professeur en sciences de l'éducation, membre du laboratoire Experis et enseignant à Sorbonne Paris Nord. Et vos travaux portent essentiellement sur l'enfance à l'école et en particulier à l'école maternelle. Et vous intéressez aussi aux pédagogies alternatives. Et on fera peut-être le lien entre les deux tout à l'heure à ce propos et au propos du bien-être. Et donc chaque mois, on retrouvera une chronique. Et ce mois-ci, comme cette année souvent, avec Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air. Avec Régis Guyon.
Ceux qui râlent, ceux qui sont déprimés et ceux qui sont en colère sont pathologisés. Cette idée du bonheur s'est mise au service du pouvoir, c'est-à-dire au service des États, au service de l'armée, au service des multinationales comme Coca-Cola. Une façon d'anesthésier, je dirais, la souffrance sociale. Ce que les psychologues positifs essaient de faire avancer, c'est l'idée que, quelle que soit la situation dans laquelle on est, si on a été licencié, qu'on est divorcé. Il s'agit en fait même de voir ces expériences comme des opportunités, comme des occasions pour nous renforcer, pour renforcer sa structure psychique. Il s'agirait de transformer vraiment le négatif, les sentiments négatifs, en sentiments pathologiques dont il faudrait se débarrasser. On en a honte, donc on n'en parle plus. Ou alors, si on en parle, c'est simplement dans le cadre privée d'une consultation psychologique. Donc il y a ce que j'appellerais une privatisation de la souffrance sociale. C'est un des grands effets de la psychologie en général, mais c'est un effet encore plus marqué de ce culte du bonheur, c'est de privatiser la souffrance. Nous voyons une affinité entre le néolibéralisme et cette quête du bonheur. Alors en quoi ? Alors le néolibéralisme, entre autres, se caractérise par deux choses. La première, c'est comme Margaret Thatcher l'avait dit dans les années 80, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus et leurs familles. Et la deuxième, c'est l'idée que l'individu est un capital. C'est un capital qu'il doit faire fructifier. Donc, la psychologie positive et cette idée du bonheur, c'est en fait une idée économique qui est appliquée à la psyché elle-même et à l'individu lui-même. C'est l'idée qu'on doit créer de la valeur en étant plus heureux.
Alors, je pense que vous avez sans doute reconnu la voix d'Eva Illouz, qui, au moment de la sortie de son livre, c'était en 2018, Apicratie, qui a fait beaucoup parler de lui et qui était sous-titré. Elle le suggère assez vite dans ce qu'elle dit, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, chez Premier Parallèle, avec Edgar Cabanès, parce qu'elle ne l'a pas écrit seule ce livre, ils étaient deux auteurs. Alors, comment vous, Claude Martin, vous entendez ces termes qu'elle utilise, ce rapport finalement à l'économie et au pouvoir, et comment on décale par rapport au bien-être, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas évacuer cette question-là. Elle, c'est autour du bonheur et cette psychologie positive qu'elle écrivait à l'époque. Et vous, comment vous situez ce travail que vous avez mené, et ce sera pareil pour Guilain Leroy tout à l'heure, mais cette approche par le centrage uniquement sur l'individu vu comme une marchandise?
C'est une excellente manière, en tous les cas, de commencer notre échange. Il se trouve que, bon, d'abord, je suis en train de... J'ai lu un bon bout de Explosive Modernité, donc le dernier bouquin de Eva Illouz, où elle enfonce le clou, si on peut dire. Et puis, l'ouvrage dont on parle est le résultat d'un travail de plusieurs années dans le cadre d'une chaire qu'avait soutenu la Caisse nationale des allocations familiales, qu'ils avaient accepté de me confier, qui s'intitulait « Enfance, bien-être, parentalité ». Et justement, dans un des séminaires, on en a organisé plusieurs, on avait invité Edgar Cabanès, le bouquin venait de sortir. Et donc, je dois dire qu'il y a pour nous un pont absolument direct entre l'approche du bien-être et la question du bonheur. D'ailleurs, c'est pratiquement un des synonymes immédiats dans la plupart de cette littérature. On fait de la promotion du bien-être en même temps que on prétend être en capacité de garantir, d'évacuer tout ce qui est une entrave au bonheur. Donc, oui, c'est une des questions que nous avions dès le départ, c'est-à-dire quelle est la bonne manière d'entrer dans un sujet comme celui-là, sachant qu'il est déjà extrêmement investi par un véritable marché. C'est-à-dire le bonheur, le bien-être, c'est un marché, c'est le marché du conseil, d'ailleurs un marché du conseil qui ne concerne pas que les enfants, il concerne les adultes dans le monde du travail.
Qu'on retrouve avec le coaching, par exemple.
Exactement. Donc, toutes ces pratiques de conseil ont pour commun, si j'ose dire, d'être rabattues sur l'individu et beaucoup aussi sur le comportement. C'est-à-dire, il y a derrière, alors c'est non seulement, on le dit assez vite, une injonction à la réussite et au bonheur, mais c'est aussi une façon de décentrer la focale sur ce qu'un auteur très ancien du durkheimien du début du siècle, du 20e, j'entends, appelait les conditions du bonheur. Et dans les conditions du bonheur, évidemment, on faisait plutôt la focale sur l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous entrave dans notre réalisation. Et ce sont, bien sûr, toutes les contraintes, toutes les contingences avec lesquelles la plupart des individus opèrent. La différence avec le contemporain, c'est qu'on est de plus en plus informé sur ce qu'il faut faire pour être heureux. Et le problème, c'est plutôt la distance qui nous sépare de ces conditions du bonheur. Donc, on est de plus en plus conscient du fait qu'on ne va pas y arriver. Et je pense que c'est un des effets secondaires, mais sans doute qu'alimente ce marché, c'est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas heureux d'abord, qu'il y a des moyens de le devenir ensuite, que ça tient beaucoup à vous, qu'il suffit quand même d'appliquer un certain nombre de méthodes qui s'appliquent à vos comportements, à votre mental, et que si vous vous y prenez bien, normalement, vous allez être responsable de votre réussite. Par contre, le bémol, c'est que vous serez aussi responsable de l'échec si vous n'y arrivez pas. Donc voilà, je pense qu'on est un peu dans cette ligne dans l'ouvrage. On a voulu décortiquer l'usage qu'on peut faire de cette notion de bien-être.
Alors, Guylain Leroy, on reviendra sur votre contribution dans cet ouvrage autour de la pédagogie Montessori. Mais peut-être que dans cette réaction aux mots d'Eva Illouz, vous y retrouvez des choses que vous mettez au travail aussi en observant ces pédagogies alternatives.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce que je retiens de cette introduction, et puis pour rebondir un petit peu à ce que vient dire Claude, je pense qu'il y a un paradoxe, effectivement, qui est à la fois voilà cette omniprésence, si je puis dire, de la notion de bien-être. On pourrait dire aussi de celle d'émotion, par exemple, qui est aussi une notion qui se diffuse dans beaucoup de sphères éducatives.
Ce sera l'objet de la prochaine émission que nous enregistrerons dans quelques semaines.
Donc, c'est-à-dire, je pense que ce paradoxe, il est bien pour commencer l'émission, quoi. C'est-à-dire que, à la fois, voilà, on en parle beaucoup, ce qui dit déjà quelque chose, hein, c'est-à-dire, voilà, les institutions éducatives en parlent, les programmes, les établissements privés vont aussi surfer sur ces notions. Et puis, à côté de ça, on perçoit aussi, voilà, des dégradations, en fait, hein, et je pense que là, les sociologues, on est particulièrement armés pour les mettre en lumière, pour les travailler, que ce soit au niveau des résultats de l'école publique, que ce soit un déclin probablement également de certaines visées égalitaires, etc., des mal-être des élèves qui peuvent aussi se déployer avec des mises en concurrence renforcées, etc. Donc là, c'est le paradoxe un peu initial, quoi, c'est-à-dire une dégradation qui parfois voilà, prend de l'ampleur liée à des mises en concurrence renforcées. Et puis, ce qui est un peu contre-intuitif en même temps, ce déploiement comme ça de toute une série de rhétoriques sur le fait que les individus doivent être bien, les enfants doivent être bien, les élèves doivent être bien, les institutions doivent bien les prendre en charge. Je pense que ce paradoxe initial, il fixe un petit peu le cadre. Donc, est-ce qu'on est sur des formes de travestissement, en fait, d'une réalité qu'on ne veut pas voir? Est-ce que les problèmes que j'ai évoqués sont vraiment traités par ces dispositifs ou pas, en fait? Mais je pense qu'il y a là quelque chose, effectivement, et puis outre, bien sûr, ces injonctions hein, qu'a évoqué Claude, finalement, à résoudre à l'échelle individuelle, par les individus eux-mêmes, ces problèmes dont on perçoit bien effectivement qui s'ancrent dans des politiques plus globales ou des évolutions sociales plus profondes.
Alors Claude Martin, dans l'introduction en particulier, mais pas que, hein, vous essayez de faire un sort à la définition de ce concept de bien-être qu'on manie les uns et les autres dans notre vie de tous les jours et puis dans la publicité, on la retrouve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui est en même temps extrêmement polysémique. Comment définir ce bien-être, au final, pas en conclusion de cet ouvrage, mais comment on pourrait définir cette notion?
Ce qui est frappant dans l'histoire de cette notion, c'est bien sûr que d'abord, elle est profondément enracinée dans une discussion, au départ plutôt par des économistes qui ont estimé qu'il y avait un lien étroit entre le bien-être des populations et des individus dans les pays, quelquefois même une sorte de forme de bien-être national. Hein, on se souvient bien sûr d'avoir un indicateur équivalent en matière de bien-être qui serait un socle de développement. C'est quand même une des conditions du développement. Donc c'est une histoire qui est longue et c'est une histoire qui est marquée par évidemment des variables et des découpages complexes. Hein. Le bien-être, c'est à la fois quelque chose qui est individuel, mais c'est aussi quelque chose de collectif. On peut imaginer, comme je disais, une forme de bien-être à des échelles de groupes sociaux très larges, voire même à des nations. Il y a beaucoup de synonymes qu'on manipule. Il y a des composantes objectivables, par exemple, qui renvoient aux conditions économiques, littéralement des ménages, par exemple, aux conditions de vie, aux indicateurs de conditions de vie. Et puis, évidemment, des indicateurs d'état de santé. Hein, le bien-être, c'est aussi, évidemment, ne pas être malade, ne pas être souffrant, ne pas être handicapé. Il y a toute une série.
Et l'éducation fait partie aussi des indicateurs. A priori,
exactement.
Aussi dans le développement des pays.
Absolument. Donc, les niveaux d'éducation, tout ça, ce sont des variables qu'on peut estimer objectivables. Et puis, il y a une composante subjective, c'est un peu comme la douleur. On ne peut pas dire la douleur à quelqu'un à sa place. On peut utiliser, et en matière de bien-être, ce n'est pas plus élaboré qu'en matière de douleur. Hein. C'est une bonne échelle de Cantril de 0 à 10, le 0 étant la pire vie possible et 10 l'optimum. Donc, voilà, c'est On évalue subjectivement son état de bien-être. On peut le comparer hier à aujourd'hui. On peut le faire progresser dans le temps ou entre individus à l'échelle d'un même ménage. Et puis, il y a des questions qui sont soulevées parce que c'est compliqué. On n'est pas sûr que le bien-être ne varie pas ou qu'on puisse l'évaluer de la même manière en fonction des générations. Enfin, est-ce qu'on évalue le bien-être d'un adulte et le bien-être d'un enfant de la même manière? Évidemment, là, on a des doutes. Il faut sûrement ajuster. On ne peut peut-être pas prendre pour argent comptant des échelles aussi brutes, si j'ose dire, qu'une échelle de Cantril. Et puis, il y a aussi des variations culturelles, c'est-à-dire on peut être surpris, par exemple, que des pays dans lesquels le PIB est très bas et que les niveaux de pauvreté des populations sont très élevés manifestent des niveaux de bien-être très supérieurs à des pays qui ont, en revanche, des indicateurs socio-économiques tellement plus élevés. Alors, ça voudrait dire que l'argent ne fait pas le bonheur, d'accord, mais ça montre qu'il y a aussi des composantes culturelles. Quand on nous interroge sur notre bien-être, on ne réagit pas tous de la même façon. Donc, il faut essayer d'ajuster tout ça. Et l'histoire de cette notion, c'est ça. C'est une histoire qui est matinée de comment l'évaluer, d'où les multitudes d'enquêtes qui ont été, et les rôles des organisations internationales, de l'OMS, de l'OCDE, j'ai déjà dit, de l'UNICEF, qui en matière d'enfance a joué un rôle très important, et puis de toutes ces enquêtes qu'on a essayé de faire de manière répétée sur un grand nombre de pays, avec des indicateurs qu'on pense comparables, pour dire, ben voilà, on est plutôt avec des enfants qui vont plus ou moins bien, pays par pays, au-delà de ce qu'on a l'habitude de mesurer, par exemple, la performance scolaire.
Alors, Guylain Leroy, je le disais tout à l'heure, et Claude Martin vient de le souligner aussi, les économistes, les psychologues se sont intéressés, et vous êtes sociologue. Depuis quand, j'allais dire, les sociologues s'intéressent, et les sociologues de l'enfance, puisque vous en êtes un, s'intéressent à cette notion de bien-être? Est-ce que ça va ensemble, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus récemment?
Je pense que c'est quand même relativement récemment, parce que la notion, quelque part, elle-même, est quand même relativement récente. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est aussi de la relier un petit peu, hein, comme vous évoquez cette sociologie de l'enfance, c'est-à-dire de la rattacher aussi à une histoire, si j'ose dire, des normativités aussi, du côté des psychés, en fait, des enfants. C'est-à-dire que... Pour moi, effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est si je rentre un petit peu dans le détail, hein, de la recherche, hein, qui est évoquée dans cet ouvrage, donc qui est autour des écoles alternatives Montessori, écoles privées, c'est qu'on est dans des établissements. En fait, c'est ça qui nous a frappé dans cette enquête, hein, et qui a été un peu une sorte d'aporie pour nous au départ, c'est que à la fois il y a une grande recherche de bien-être. Et à la fois, il y a une grande recherche, malgré tout, qui se dit un peu moins de réussite quand même scolaire. Alors pour nous, c'est vrai qu'on était un petit peu contre-intuitif, quoi, parce qu'on se disait comment ça se fait effectivement qu'il y ait cette cohabitation. Et on a mis un petit peu de temps à l'interpréter. Et finalement, on en est venu à l'idée que, en fait, solution relativement simple, qui est qu'en fait, le bien-être, et du coup, ça permet de travailler aussi un petit peu sur la malléabilité, hein, de la notion, en fait, n'est pas chez ses parents et dans ses écoles, n'est pas considéré comme pouvant être antagoniste à l'idée de réussite académique. C'est-à-dire que, dit autrement, on est dans des établissements qui visent la réussite scolaire et académique, mais qui vont s'adapter à la variété des enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on y est prêt, par exemple, à tolérer des visions du bien-être qui seraient antiscolaires, par exemple. Donc, on est plutôt dans l'idée, voilà, de faire des petites concessions, de s'adapter aux enfants, est-ce qu'ils ont besoin d'un rythme un petit peu plus doux, etc. Mais quand même pour parvenir à des fins scolaires. Et si on revient, par exemple, à une cinquantaine d'années, et là, je fais un petit peu une référence aussi à mes propres travaux sur l'école maternelle, on avait des approches psychologiques de l'enfant qui étaient quand même assez différentes. C'est-à-dire que si on prend un certain nombre d'écrits des années 60, 70 autour de l'école maternelle, on avait à l'époque des visions selon lesquelles respecter la psychologie de l'enfant, eh bien, c'était respecter, par exemple, son envie de ne pas devenir élève, par exemple, en fait. Donc, pour moi, je l'inscris aussi dans une réflexion comme ça sur l'évolution des normativités psychologiques, quoi. C'est-à-dire, à l'époque, du côté de l'enfance, il y avait, alors parfois dans les discours, hein, uniquement, mais des tolérances, en fait, voire des valorisations des comportements antiscolaires enfantins, tandis qu'aujourd'hui, finalement, on a une psychologie de l'enfant adossée à cette notion de bien-être qui va plutôt dans le sens, au fond, de formes d'adaptation aux objectifs scolaires, quoi. En tout cas, la notion de bien-être dans ces établissements qu'on a étudiés n'est pas critique, alors qu'elle pourrait l'être, en fait, vis-à-vis des objectifs académiques et scolaires. Et ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire de voir que cette notion qui pourrait être utilisée finalement pour disrupter un petit peu les attentes de réussite scolaire contemporaine, concurrentielle, etc., eh ben, elle n'est pas vraiment utilisée dans cette potentialité critique.
Merci. On va aborder une autre notion, finalement, avec la chronique d'Héloïse, à qui je cède tout de suite la parole.
Depuis la loi de la refondation de l'école française, lancée en 2013 par le ministre Vincent Peillon, le bien-être des élèves devient un enjeu majeur de l'école. Et ce bien-être est à atteindre notamment par un climat de bienveillance dans les relations pédagogiques. Je cite le guide sur le climat scolaire pour les équipes du second degré en 2015 pour définir officiellement la bienveillance. C'est un ensemble d'intentions et d'attentions visant le bien-être et l'épanouissement d'autrui, perceptible dans tout ce qui aide à préserver l'estime de soi de l'autre et à développer une confiance réciproque. Comme le note en 2016 Gwenola Reto, chercheuse en éducation, dans les cahiers du CERFE Éducation et Socialisation, la notion de bienveillance peut être associée à celle de caring, qui est portée par le courant de recherche sur l'éthique du care. Il se trouve que cette notion de care a fait son apparition dans le débat public français en 2010, donc peu de temps avant la loi Peillon. Martine Aubry, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, avait défendu au micro de Mediapart le passage à une société du care ou à une société du soin mutuel. L'objet de cette chronique est de discuter du lien entre la notion de bienveillance éducative et l'éthique du care. Donc pour ce faire, il faut d'abord saisir ce qu'est l'éthique du care. Ce courant philosophique a été fondé à partir du livre « In a Different Voice » écrit par la philosophe et féministe états-unienne Carole Gilligan en 1982. Il s'agit de mettre en lumière une éthique qui soit différente de la morale dominante, une éthique qui est pratiquée dans les relations de soins au sens très large. L'individu qui donne le soin est dans un dialogue réciproque avec l'individu qui est soigné, puisqu'il cherche à lui donner le soin qui lui correspond personnellement et il attend son approbation en retour. L'individu soigné est vulnérable, mais en aucun cas il n'est donc assujetti au soignant. Le soignant a justement pour but de l'émanciper. L'éthique du care s'observe par exemple dans la relation mère-enfant, mais elle ne s'y limite pas et elle ne doit pas s'y limiter. Ainsi, la philosophe états-unienne Nell Nodings veut appliquer cette éthique au métier de l'enseignement. Elle détaille cela dans « The Challenge to Care in Schools », un ouvrage publié en 2005. Le premier point est que le but de l'école est de faire grandir les élèves pour qu'ils deviennent des personnes saines, compétentes, morales. L'instruction uniquement intellectuelle n'est donc pas la priorité. On parle d'éducation à la vie, plutôt. Pour se construire en tant que personne, les élèves apprendront comment prendre en charge leur bien-être physique, par exemple. Ou encore, ils pourront apprendre comment s'inscrire dans des relations de care, familiales ou autres. La condition pour que les élèves se construisent ainsi est qu'ils aient une relation réciproque et singularisée avec leur enseignant. Et en ce sens, l'enseignant est un caregiver, parce que sur le terrain, il fait attention à ses élèves dans leur individualité et il prend aussi en charge leurs besoins individuels en termes d'éducation. Nell Nodings va plus loin, elle propose que les enseignants diversifient le contenu et l'objectif de leur cours selon chaque élève. À l'échelle de l'institution, il faut aussi que les talents non scolaires des élèves soient valorisés. Comme les savoirs scolaires ou intellectuels ne suscitent de fait pas l'intérêt de tous les enfants, alors il faut individualiser les attentes scolaires. Donc l'idée derrière cela est de garantir le droit à l'éducation de tous, mais à une éducation personnalisée et non pas uniforme. Donc en définitive, on voit bien que dans les attendus dans l'institution et aussi dans le détail des pédagogies, l'école du care de Nell Nodings est tout à fait différente de la réalité de l'école en France. En revanche, l'attitude de bienveillance que l'on attend des enseignants est peut-être plus proche d'une attitude de caregiver.
Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un certain flou pour le bien-être. On retrouve ce flou avec la bienveillance éducative. Donc, à quelles conditions cette bienveillance entre-t-elle en résonance avec ce que prône, ce que vous avez dit plus haut, l'éthique du care?
Alors, pour que la bienveillance éducative soit proche du care, elle ne doit pas être une attitude exclusivement émotionnelle ou empathique, comme dans la relation mère-enfant. En effet, dans le care, quand il est appliqué à l'enseignement, il faut certes identifier les besoins de l'autre, il faut se sentir concerné par eux, au point de les prendre en charge, mais c'est toujours réfléchi et il y a une certaine distance émotionnelle. Comme l'explique Nell Nodings, l'enseignant ne se projette pas à la place de l'élève. Or, souvent, à tort, on associe le care à l'empathie émotionnelle ou à la gentillesse. C'est ainsi que des détracteurs de Martine Aubry ont fustigé une nunucherie, je cite, lorsqu'elle a introduit cette éthique dans le débat public en 2010. Or, dans le discours de l'Éducation nationale, cela peut être flou. Ainsi, le programme d'enseignement de l'école maternelle de mars 2015 parle de la maternelle comme d'une école bienveillante qui manifeste sa confiance à l'égard des enfants de telle sorte qu'ils aient confiance dans leur capacité à apprendre. La bienveillance revient simplement ici à rassurer ou à encourager les élèves. Par ailleurs, quand la bienveillance émotionnelle n'est pas dosée, cela pose des problèmes concrets aux enseignants. En tant que formatrice en école supérieure du professorat et de l'enseignement, Corinne Roux l'a fait, témoigne dans les cahiers du CERFE en 2016, de la détresse de jeunes enseignants qui ne parvenaient pas à sanctionner leurs élèves, pris qu'ils étaient dans une relation d'empathie émotionnelle avec eux. En tout cas, la notion de bienveillance associée au care invite à redéfinir le métier d'enseignant, et ce n'est pas anodin, comme le montre la philosophe Sandra Laugier en 2005 dans l'ouvrage collectif « Le souci des autres ». L'enseignant n'est plus seulement un maître indépendant qui sait et qui donne le savoir, l'enseignant devient plus un artisan, au sens où, en tant que personne, il compose avec des relations humaines qui sont chargées d'un point de vue émotionnel. Au passage, il apparaît que cette facette-là du métier d'enseignant est grandement dévalorisée dans notre société, et un enjeu pour l'éthique du care est justement de revaloriser cette facette humaine et relationnelle.
Merci Héloïse. Alors Guylain Leroy, est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition de l'enseignant comme un caregiver ou quelqu'un qui s'est approprié cette notion comme un élément de ce, constitutif de son métier ?
Alors disons que je pense qu'il y a un pas effectivement et un certain hiatus entre cette vision philosophique qui me paraît assez séduisante et puis la réalité de l'école aujourd'hui. Du côté de la petite enfance aussi, également. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'obstacles pour que ces objectifs de care soient à l'œuvre, hein, d'accord. Vous avez évoqué l'école maternelle, hein, par exemple. Les évolutions qui ont pesé sur elle depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire en termes d'attente de résultats précoces, sous l'influence de transformations qu'on peut qualifier de néolibérales, hein, pour reprendre le terme qui a été évoqué en début d'émission, ont transformé la relation éducative, souvent dans un sens assez défavorable. Si je reprends mon enquête de thèse, par exemple, mon terrain a eu lieu de 2011 à 2013, sur une quinzaine d'enseignants de maternelle que j'avais observés, il y avait quand même pas loin de la moitié des classes dans lesquelles j'ai constaté des situations de violence éducative, en fait. Donc, ça pouvait aller de mots dévalorisants à l'endroit de certains enfants, avec parfois des choses physiques, comme le fait d'attraper des enfants ou des punitions humiliantes, etc. Voilà. Donc là, le but, c'est pas forcément de jeter l'opprobre sur la profession, mais de voir effectivement qu'elle évolue dans un climat dégradé, en fait, en termes de conditions de travail, qui est bien documenté par la sociologie de l'éducation. Je pense aux travaux de Sandrine Garcia, par exemple, sur le sujet, et bien d'autres, qui montrent à la fois un déficit de formation initiale, des conditions de travail qui sont difficiles, à la fois des attentes de résultats aussi très importantes, beaucoup de responsabilisation des enseignants au niveau de leur professionnalité, beaucoup d'attentes, etc. Pourrait évoquer aussi les enfants de milieux populaires, hein, qui sont aussi souvent marginalisés dans les classes, moins pris en charge au niveau des pédagogies à l'œuvre, et ce, précocement, dès le début de l'école maternelle. Donc tout ça, effectivement, ça dresse un paysage effectivement qui fait que, dans la réalité, donc ces valeurs de care appliquées à l'enseignement, je les trouve tout à fait stimulantes, d'un point de vue philosophique, mais il est certain que c'est aussi, je crois, le rôle du sociologue que de voir les écarts, en fait, hein, dans les pratiques effectives.
Et est-ce que, Guylain Leroy, est-ce que du coup, dans les pédagogies alternatives et dans les écoles Montessori en particulier que vous étudiez, est-ce que cette promesse du caregiver ou de la mise en œuvre du care est plus visible et plus concrète, ou on est dans les mêmes prises de contradiction entre le discours et la pratique ?
Je dirais oui et non, en fait. C'est-à-dire que déjà, il faut les écoles qu'on a étudiées là, dans le chapitre qui est évoqué, qui est dans le livre, c'est quand même des écoles aussi qui sont assez situées socialement, quoi. Donc on est quand même sur des écoles où on est autour de 400 euros par mois. écoles privées Montessori alternatives. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, elles fleurissent effectivement sur ce climat de dégradation, en fait, de concurrence accrue, etc. Donc, partant de ce climat, elles vont vendre une prise en charge qui va être davantage liée au bien-être, en fait. Voilà. Mais elles n'ont pas le pouvoir de réformer les logiques de mise en concurrence un peu généralisées qui se développent aujourd'hui. Mais elles ont la promesse, en fait, d'une prise en charge qui sera un peu plus psychologisante qu'ailleurs. Donc, deux réserves, du coup, pour répondre à la question qui vient de m'être posée. Leur limite, c'est qu'elles ne peuvent pas refondre un système éducatif qui, pour plein de raisons, est de plus en plus basé sur des logiques de mise en concurrence des enfants et des individus. Donc, là-dessus, elles ne peuvent pas avoir de prise, sauf à, effectivement, voilà, être avec des plus petits effectifs, davantage prendre en compte les spécificités de chaque enfant. Mais il faut bien voir que, voilà, elles ne peuvent pas réformer le système dans son ensemble. Et la deuxième limite que je dois évoquer, c'est qu'effectivement, elles s'adressent aussi à une population qui peut se payer ce bien-être, si j'ose dire aussi. Donc, il faut aussi voir que ces écoles, elles ne sont pas pour tout le monde. Et le geste aussi sur lequel elles se fondent, c'est quand même un geste de rupture vis-à-vis de l'école publique, ordinaire, etc., qui, pour plein de raisons fantasmées ou réelles, est jugée défavorable par les parents qui vont dans ce type d'école. Est-ce qu'elles aboutissent à être plus dans le bien-être que les autres, ça, je pense que l'enquête qu'on a menée ne permet pas de le dire. Mais en tout cas, c'est aussi une école qui est réservée à une élite, malgré tout. Donc, ça pose aussi la question de l'accès, entre guillemets, d'une sorte de privatisation de l'accès au bien-être et encore peut-être d'un bien-être partiel.
Claude Martin, cette approche par le CAIR, est-ce que vous vous y retrouvez? Et puis après, j'aurais une question par rapport aux choix et aux places des parents dans ces choix-là, justement, de modèle éducatif.
Tout à fait. Je pense que c'est en tout cas un très bon pont à faire. Le champ sémantique s'étend assez facilement du côté du CAIR. Alors moi, ce que je retiendrai, qui a été un peu mentionné dans la rubrique, là, et merci pour ça, mais en fait, Martine Aubry, elle n'était pas seulement... Elle a été candidate à la présidence de la République et en effet, elle a été critiquée à droite, bien entendu, mais aussi à l'intérieur de son propre parti. Et bon, on a parlé de sa lecture en termes de bisounours et on a fait ça dans la plus complète amnésie du fait que la notion de politique de caring society, de société du care, en fait, a des précédents. Hein. Il y a un excellent bouquin d'Irving Berstein qui a repris la période du New Deal et qui, justement, en commentant le projet de l'époque, parlait d'une société du care. Qu'est-ce qui était là derrière? C'était en effet d'essayer de rapporter à la population ce minimum de conditions, on pourrait dire maintenant à nouveau, de bonheur qui devait être partagé, c'est-à-dire comment écraser les disparités sociales et l'échelle des revenus pour faire en sorte que la cohésion soit le résultat de cette compression un peu au centre des conditions matérielles dans lesquelles les individus sont susceptibles de vivre bien. C'est le bien-vivre qui était recherché. Mais on a complètement oublié tout ça, on l'a complètement rasé. Et je pense que ça, c'est un point qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il y a une politisation de ces questions. En fait, c'est une vraie thématique politique que de savoir si on parle des inégalités économiques, mais aussi des inégalités de conditions de vie et du coup des conditions du bonheur, comme j'évoquais tout à l'heure en parlant de Sourio qui avait écrit ce bouquin au début du XXe siècle. Donc, on est encore là-dedans. Et c'est toujours comme ça qu'on rentre en la matière. Pourquoi on a parlé du mal-être des enfants de façon très politisée? Ben c'est parce que David Cameron, en 2007, s'est permis d'écrire dans la presse et de claironner haut et fort au Royaume-Uni que les Anglais avaient, enfin que le Royaume-Uni et l'Angleterre en particulier, avaient les enfants les plus malheureux du monde. Les plus malheureux du monde. Et cette espèce d'accent qui a été mis sur le malheur ressenti par les nouvelles générations, a fait qu'on a développé tout à coup toute une série d'arguments. Et ça nous place devant une sorte de paradoxe. Est-ce que cette injonction au bonheur qu'on évoquait tout à l'heure il faut la reprendre sans tenir compte de ces manifestations de mal-être. Vous voyez bien qu'on ne peut pas se départir complètement de ce que les chiffres nous racontent. Hein. On a maintenant l'enquête en classe de 2022 qui est traitée, et c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre pourquoi la France est si mal positionnée. HBSC le faisait déjà, c'est-à-dire on est toujours mal classé. Mais mal classé non seulement au regard des autres pays, mais surtout au regard du niveau d'investissement public dans nos politiques économique, d'éducation et de la famille. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup et nos résultats ne sont pas à la hauteur. Et cette espèce de gap que nous renvoient en miroir les enquêtes PISA régulièrement, ces enquêtes nous montrent que ça ne performe pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, et pas même sur les niveaux de bien-être ressentis par les élèves. Alors maintenant, on ne peut pas rayer d'un trait en disant « oui, mais ces enquêtes, en fait, on est un peu obsédés, donc les élèves au collège et au lycée, ils résonnent comme l'ambiance, on pourrait dire, de l'opinion publique générale. Donc, ils nous disent qu'ils sont pas bien, qu'ils sont découragés. » Les chiffres, je ne sais pas si vous aviez regardé ça, mais enfin, ils sont quand même assez consternants. On a jusqu'à 52, presque 3% des filles au collège qui déclarent se sentir complètement découragées. On en a 41% qui sont débordés par la tristesse. On a donc des symptômes de sentiments dépressifs, on a des manifestations de malheur et puis on a des passages à l'acte, on a l'irruption de symptômes comme la phobie scolaire, des collégiens et surtout des lycéens qui ne veulent même plus se rendre au lycée. Tellement c'est devenu une expérience aversive. Ils sont donc malheureux. Donc, ce sont les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est plutôt là que je crois que ce que souligne à l'instant Gisela, c'est très important, c'est-à-dire ces espèces d'inégalités de positionnement. Les parents qui ont toutes les conditions propices à la réussite de leurs élèves sont totalement démunis quand justement leur enfant n'arrive plus à avancer dans cette espèce de course à la performance et qu'ils éclatent en vol, si on peut dire, et que tout d'un coup, ils sont envahis par l'anxiété.
Oui, parce que souvent, les parents ont aussi une forme de vision et d'objectif pour leurs enfants en termes de réussite, ce qui va engendrer des stress.
La pression scolaire.
Voilà, la pression que les parents mettent, ce n'est pas forcément que l'institution, je veux dire, et l'organisation scolaire.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut à la fois prendre au sérieux, mais de manière critique, ces mots d'ordre du bien-être, et en particulier à l'école. Hein. On ne peut pas juste dire où ça n'existe pas, où il n'y a que ça. C'est pas possible. Il y a bien donc un chemin à suivre. Et on voit que la littérature, et on n'est pas les Français les plus gros contributeurs, c'est vraiment un débat parfaitement internationalisé. Il y a beaucoup de contributions. D'ailleurs, l'ouvrage nous balade. Hein. On va d'Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, on passe par le Canada, plusieurs pays européens, etc. Le Royaume-Uni également. On voit que toute cette littérature nous dit... Pour ce qui est de la part de l'école, il y a en effet ce qui a été mentionné tout de suite, le climat scolaire. Alors, c'est un peu compliqué le climat scolaire parce que ça recouvre encore une fois une véritable boîte de Pandore. Est-ce que c'est à la fois les relations prof-élève, la qualité de contenu, le curriculum d'enseignement, est-ce que c'est aussi l'environnement physique de l'école? Le climat scolaire, il est aussi un peu déterminé par la qualité de l'environnement physique. Est-ce que ça rejoint aussi la possibilité de participation des élèves à la vie scolaire, est-ce qu'ils sont impliqués ou pas impliqués, etc. Le climat scolaire, c'est une boîte de Pandore. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, bien sûr, sur le focus relation prof-élève. C'est-à-dire la qualité de la relation prof-élève est tout à fait cruciale, avec des gaps entre le fait d'avoir des élèves qui ont un peu la culture scolaire déjà bien vissée au corps, si j'ose dire, qui ont le métier d'élève déjà bien intégré, et ceux qui ne l'ont pas. Alors évidemment, pour la relation prof-élève, cette question fait qu'il y a des élèves, on pourrait dire, faciles, qui sont dans le moule, et des élèves qui ne le sont pas. Il y a tout ce qui est relation avec les pairs, avec les autres élèves, puisque là, on le sait bien, il se passe à l'école et hors de l'école des relations entre élèves qui peuvent être extrêmement problématiques. Toute la thématique du harcèlement, elle est là en germe, mais on sait qu'on y est particulièrement, évidemment particulièrement sensible. Et puis, il y a tout un autre continent que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est le rôle des parents. C'est-à-dire le pressing, si on peut dire, que peuvent faire les parents. En positif, c'est-à-dire de créer l'environnement propice au sein de la famille pour que l'entrée dans le dispositif scolaire se passe dans les meilleures conditions possibles. Et là, c'est ce qu'on dit, il faut des parents investis, quoi. Voire même qui investissent intensément. On parle d'intensive parenting parce qu'ils y mettent beaucoup des ressources économiques, mais aussi du temps. Et en effet, de créer des conditions d'environnement. Là, c'est vrai que Sandrine Garcia, qui est dans le bouquin, qui n'avait pas encore écrit Au goût de l'effort, a développé très bien cette fonction parentale d'investissement. Et puis, comme vous le dites très bien, de temps en temps, il y a un trop. Il y a les parents qui en font trop. Et à ce moment-là, on passe du côté de la pression parentale où la communication parent-élève finit par ne se résumer qu'à comment ça va, ça veut dire comment s'est passée ta journée, c'est bien sûr ta journée à l'école. Il y a eu des contrôles, oui, ah d'accord, et c'était la semaine passée, oui, oui, alors tu as eu la note peut-être, oui, ah d'accord, bon, bah, très bien, et tu es dans la moyenne. Oui, d'accord. C'est quoi en fait la moyenne? Et puis on va aller vérifier immédiatement sur Internet quel est l'écart type et où situe son môme. Et donc, on a des parents qui sont focus réussite scolaire jusqu'au point où, en effet, on a un système anxieux, des parents qui sont préoccupés par ça, des élèves qui, effectivement, s'ils sont déjà dans le moule scolaire, sont préoccupés par la performance, et éventuellement des enseignants qui, eux aussi, aimeraient bien que la moyenne de la classe soit la plus élevée possible et que le pourcentage de réussite au bac soit absolument au top et qu'on puisse enfin friser les 99% de ceux qui se présentent et qui l'est. Comment peut-on d'ailleurs comprendre une telle anxiété quand presque tous ceux qui se présentent au bac l'ont? On pourrait dire, il n'y a donc pas d'enjeu. Eh bien, si, il y en a encore, parce que précisément, il ne faut surtout pas être du mauvais côté de cette histoire.
De l'exception.
Exact, d'être du côté de l'exception. Donc, je crois qu'on comprend à ce moment-là qu'on doit à la fois prendre au sérieux ces indicateurs de relatif mal-être à l'école, qui se manifestent dans nombre de nos enquêtes, avec ces facteurs qui tous peuvent contribuer ou au contraire diminuer ce sentiment de pression. Dans l'ouvrage, Dimitra Artas, par exemple, défend que les pays dans lesquels les parents font découvrir le monde à leurs jeunes plutôt que simplement ce qui garantit la performance à l'école, ont des meilleurs résultats au fond, au final, à l'école pour leurs enfants, parce que précisément, ils ne redoublent pas à la maison ce qu'est déjà le travail de l'élève. On fait autre chose. Et en même temps, c'est aussi absolument crucial. Il faut pouvoir parler peut-être de vie politique, peut-être du climat. Enfin, là, je ne parle que de choses qui sont anxiogènes, cela dit, mais parce que ce soit la vie politique ou le climat, il n'y a pas tellement de raisons de se réjouir. Mais quand même, ça signifie qu'on peut ouvrir à autre chose. On peut ouvrir à autre chose, et c'est ce qu'elle pointe. Et quand elle fait des analyses comparées pour dire, voilà, l'hyperfocus école-école, avec des parents qui refont l'école à la maison, si on peut dire, ou qui redoublent la pression scolaire à l'intérieur du ménage, à ce moment-là, ne sont pas sur une voie susceptible d'améliorer tous ces indicateurs qui sont souvent alarmants.
Yelin Leroy, est-ce que dans les écoles que vous étudiez, il y a cette pression, alors qui s'exerce peut-être autrement, mais cette pression parentale?
Oui, 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 c'est-à-dire qu'on...
Parce que finalement, ils sont, j'allais dire, clients.
Dans les travaux que j'ai pu mener ou diriger autour de la mode un petit peu Montessori, hein, dans une perspective de sociologie de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet intérêt, donc dans notamment une enquête que j'avais dirigée enfance montessorienne, de saisir en fait le phénomène Montessori, voilà, qu'on entendait beaucoup dans les médias, dans les sphères marketing, etc., un intérêt sur le fait qu'en fait, c'était quelque chose qui touchait à la fois des institutions éducatives, des profs de maternelle qui s'intéressaient à ça, des écoles maternelles privées, etc. Mais il y a aussi un montessorisme familial, en fait. Et ce montessorisme familial, on le voit effectivement, par exemple, dans des ouvrages à destination des parents qui mobilisent la référence à Montessori. Éduquer son enfant avec Montessori, son bébé avec Montessori, etc. Voilà. Et il y a des aménagements de chambre aussi à la sauce Montessori, etc. Et effectivement, c'est quand on étudie ces bouquins, quand on étudie ces blogs, etc., on voit effectivement très clairement ce qui vient d'être dit, quoi. C'est-à-dire une forte focale très précoce sur les apprentissages, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé dans certains bouquins, c'est même, hein, et là aussi pour faire un petit peu de la mise en perspective socio-historique sur les représentations de l'enfant, et ce qui est bon pour l'enfant ou pas, on voit clairement des remises parfois en question du lien affectif à l'enfant, quoi. C'est-à-dire avec l'idée que même le bébé, finalement, en fait, un gros chambardement quand même en termes de référence, hein. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans Winnicott, Dolto, etc. J'ai vu des bouquins de ce type-là, montessorien, dire qu'effectivement, une relation trop affective avec le bébé, si bien le bébé, pouvait l'entraver dans sa quête solitaire d'apprentissage, quoi. Par exemple, dans sa chambre, avec des jeux éducatifs mis à disposition, quoi. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, effectivement, à la fois, je dirais, du côté du montessorisme scolaire, mais aussi du montessorisme familial. Après, pour réagir aussi un petit peu à ce que disait Claude, je pense aussi que voilà, ce stress un peu parental, cette forte focalisation, on l'a vraiment vu aussi les résultats scolaires, on l'a vraiment vu dans ces écoles privées Montessori du côté des parents, avec même, je dirais, parfois des formes de naïveté, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'aussi, ça serait intéressant peut-être pour des travaux à venir de voir que tout le monde n'a pas peut-être les dans un climat comme ça de stress un peu généralisé, c'est peut-être parfois des familles aussi très bien situées qui ont des capacités critiques par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire pour faire un peu ce que disait Claude, justement. C'est-à-dire, il y a peut-être des familles de milieu supérieur qui, en fait, mettent leur gamin dans une école privée élitaire et qui, à côté de ça, à la maison, lui disent aussi « bon, te stresse pas trop », etc., quoi. Tandis que nous, finalement, dans ces écoles Montessori, on était sur des familles qui n'étaient pas non plus tout en haut de la hiérarchie sociale, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus des capitaux culturels exceptionnels, etc. Mais qui, du coup, et je pense que c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cette littérature Montessori, qui, je pense, pour des gens mieux situés socialement, peut presque faire un peu rire, quoi, par sa caricature, quoi, en fait, dans le côté vraiment optimiser l'enfance de mon enfant, quoi, l'optimiser en termes d'apprentissage, quoi, je veux dire. Donc, il y a à réfléchir aussi, je dirais, en termes de stratification sociale sur où on est en capacité, on est tous obligés de s'adapter, en fait. Donc, personne peut dire à son enfant, les injonctions scolaires, tu t'en fiches, voilà, ces discours-là, ils sont plus tenables en 2025. Donc, peut-être qu'en fait, à différents niveaux, il y a peut-être des classes moyennes supérieures, qui ont un petit discours psychologisant du genre, il faut quand même écouter l'enfant, faut qu'il s'épanouisse, etc. Puis, il y a peut-être aussi des gens, finalement, bien situés qui apprennent un peu à l'enfant à être dans des trucs un peu clivés, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu dois performer, mais en même temps, trouve-toi des petits espaces, etc., de respiration, un peu comme, dans le monde professionnel, des gens qui sont obligés d'être assez performants et qui se relaxer.
C'est une autre manière de gérer la performance aussi. Hein. C'est une manière d'intégrer des choses pour gérer la performance. Alors j'aimerais vous entendre aussi pour terminer cette discussion aussi, parce qu'il y a depuis plusieurs années, c'est pas aujourd'hui, mais il y a une notion qui est apparue, qui est les compétences psychosociales. Alors dans l'ouvrage, je sais pas si c'est un mot que vous utilisez beaucoup, parce que je pense qu'il y avait compétences sociales et émotionnelles aussi. J'en parle parce que Santé publique France a sorti un référentiel opérationnel, je mets des guillemets, mais c'est le titre, hein, à destination des professionnels experts et formateurs en compétences psychosociales, qui d'une certaine manière, puisqu'on parle de compétences psychosociales, qui ne sont pas tout à fait étrangers au sujet dont on parle, me semble-t-il. Comment voyez-vous cet outillage, quelque part, ces instruments-là, à disposition des formateurs, des éducateurs, et j'imagine des soignants et d'autres types de personnel ? Claude Martin ?
Non, on ne l'utilise pas vraiment dans l'ouvrage, vous avez bien noté. C'est exact que le terme de compétence est présent, puisqu'à la fois il qualifie la qualité, les problèmes de qualité. Hein. On a un chapitre qui est consacré justement à cette espèce d'amortisseur des inégalités et de la pauvreté que sont les structures d'accueil de la petite enfance en comparaison européenne. J'oublie son nom à l'instant, mais ça va me revenir. En tous les cas, qui fait cette comparaison. Et pour lui, les enjeux de qualité amènent à évoquer, en effet, toutes sortes d'ingrédients qui posent la question de la compétence, et en particulier de la compétence des professionnels dans l'accueil de la petite enfance. Mais il montre surtout le gap qui sépare, encore une fois, ce codage des niveaux de compétences ou des niveaux de qualité qui sont souvent affichés dans les politiques publiques et la réalité des terrains. C'est pas pour prendre un exemple, est-ce qu'on doit accueillir les enfants de moins de 3 ans dans les petites sections d'école maternelle ? Oui, non. Et très vite, on oublie que ça dépend, le ratio entre nombre d'adultes et nombre d'enfants accueillis est totalement déterminant. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop jeunes que ça ne se passe pas bien. C'est parce qu'ils sont trop nombreux à être trop jeunes par rapport au nombre d'adultes présents. C'est ça qui devient les enjeux de qualité. Donc, moi, je ne suis pas contre l'existence de référentiels. Par contre, je ne veux pas que nous soyons bernés par des affichages qui ne tiennent pas compte des sous-investissements qui ont lieu dans toute une série de secteurs. Je ne sais pas, quand on parle de la santé mentale des enfants et qu'on regarde la situation française, il faut quand même penser et noter que la misère de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, mise en regard de l'explosion de l'usage des psychotropes adressés à des adolescents, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de guichet pour accueillir des enfants qui ont une forme de souffrance psychique qui n'est pas une pathologie, mais qui pourrait évidemment se cristalliser sous forme d'anxiété et peut-être même plus fort encore. Si on n'a pas d'adultes à mettre en face, on ne peut pas tout résoudre en les assommant avec des augmentations de 170% de certains psychotropes ou antipsychotiques adressés à des ados. Donc il y a là des questions de moyens adressés. Et c'est pourquoi je suis d'accord pour des référentiels, mais je ne suis pas d'accord pour des référentiels un peu hors sol du point de vue de ce que les professionnels peuvent dire. On peut faire des grands projets de réforme, mais il ne faut pas se gargariser. Si les moyens ne suivent pas, alors on aura tout un système anxieux qui va continuer d'augmenter. Il ne suffit pas d'avoir du référentiel compétences psychosociales à mettre au regard de nos pratiques. Parce que jusqu'à ce stade, c'est un peu des mots.
Guylain Leroy, sur cette approche ou cette histoire de référentiel.
Peut-être pour rebondir plutôt, oui, sur cette question de compétences psychosociales, où on évoque par exemple souvent l'empathie. Il y a tout un développement autour de ce genre d'objectif, par exemple. Moi, ce qui me questionne souvent un petit peu là-dessus, c'est comme d'autres, hein, bien évidemment, c'est pas du tout une réflexion ultra originale, mais c'est-à-dire on change pas forcément la relation enseignant-élève, on change pas forcément le contexte de l'école, on change pas forcément la société, et puis en fait, on va introduire comme ça des petits éléments très ponctuels. Donc j'ai des exemples comme ça, par exemple sur la question de cours autour de l'empathie ou même de kit, par exemple sur l'empathie, rien que le mot kit, donne l'impression d'une boîte à outils qui va résoudre tous les problèmes. Quand il y a quelques séances ponctuelles comme ça, pour moi la question de l'empathie, elle est évidemment très importante. Hein. On a évoqué le care tout à l'heure, développer des relations de care entre enfants et entre enfants et adultes, évidemment que c'est quelque chose que j'appelle tout à fait de mes vœux. À côté de ça, si c'est 2-3 séances ponctuelles dans l'année et qu'au milieu du reste du temps, il y a des rapports agonistiques entre enfants ou des choses effectivement dans la relation éducative ou des injonctions à la réussite qui sont très très lourdes, on a quelque chose qui est très perturbant psychiquement, quoi. C'est-à-dire des hiatus entre la réalité et ce qui est dit dans ces séances-là. Donc pour moi, prendre au sérieux, si je puis dire, la question de l'empathie, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça soit réduit comme ça à quelques dispositifs en fait, qui permettent juste de dire qu'on en parle.
Donc un grand merci Claude Martin et Guylain Leroy pour cet échange. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Élise Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin et au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. On se retrouve donc en octobre pour une série de podcasts enregistrés à l'occasion d'une journée d'études organisée à l'IFE autour de la crise sanitaire 5 ans après. Et retrouvez ce podcast comme tous ceux de Cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les plateformes de podcasts.